Actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Ce matin, nous attendons vos réactions sur la campagne électorale aux États-Unis. C'était cette nuit, vous le savez, le deuxième duel télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. Rarement un débat aura été aussi attendu et aussi virulent après les révélations ce week-end sur les propos orduriers et misogynes tenus par Donald Trump en 2005. En tout cas, le candidat républicain s'est défendu en reprenant ces mêmes accusations contre Bill Clinton, l'époux de sa rivale, qu'il a qualifié de prédateur sexuel. Donald Trump a également menacé Hillary Clinton d'aller en prison en affirmant que s'il était élu président, il demandera à la justice d'enquêter sur elle et sur l'affaire des fameux emails. Alors, à un mois de l'élection présidentielle, quel regard portez-vous sur cette campagne électorale? Que vous inspirent les propos sexistes de Donald Trump? Dites-nous si aujourd'hui, finalement, Hillary Clinton apparaît comme la plus présidentiable des deux candidats. Vous continuez à nous appeler 39 693 693 70, 09 693 693 70 si vous êtes en France, et vous continuez évidemment à nous poster vos réactions, vos analyses sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, questions pour mieux comprendre l'actualité. Ben nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Ben.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. On vous écoute.
Oui, Juan. J'ai appris que M. Carlos Lopez, sur les ondes de RFI, est responsable de la commission économique Zone Afrique, vient de démissionner. Mmh. Alors, pourquoi démissionne-t-il, tout en remettant en question le franc CFA?
Ah, c'est vrai qu'il a remis... Il a remis en question, effectivement, le franc CFA. Il a dénoncé un système désuet, un système inadapté. Vous avez d'autres questions, Ben?
Oui, je voulais savoir, deuxièmement, y a-t-il des interrogations sur l'avenir de la zone et de sa monnaie?
Ah, de plus en plus de voix, effectivement, réclament une réforme du franc CFA. Bonjour Jean-Jacques Louarn.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique d'RFI, c'est vrai que de plus en plus de voix réclament une réforme, voire même la suppression du franc CFA, cette monnaie qui est utilisée par 15 pays africains, 15 anciennes colonies françaises. D'abord, expliquez-nous pourquoi Carlos Lopez a-t-il décidé de démissionner de la Commission économique pour l'Afrique?
Alors j'ai envie de vous dire, mais c'est une sorte de boutade, ce n'est pas du tout à cause du franc CFA. Voilà, et bien Carlos Lopez a démissionné en fait pour retrouver un espace de liberté. De toute évidence, à la tête de la Commission économique pour l'Afrique, donc un organe des Nations Unies, eh bien le brillant économiste ne se sentait plus suffisamment libre de parole. Alors il n'a pas choisi ce moment précis, cette démission, pour critiquer la zone franc CFA, le CFA. Il faut lui reconnaître ça. L'homme est connu pour ses prises de position, ses convictions. C'est un brillant économiste, apprécié de toutes parts. Carlos Lopez, donc aujourd'hui, va s'installer en Afrique du Sud. Hein, c'est ce qu'il me disait dans un entretien. Conseiller de grandes sociétés sur le continent, et il fait partie de ce groupe très restreint d'experts chargés de réfléchir sur l'évolution de l'Union africaine, un groupe créé après le dernier sommet de l'Union africaine. Donc c'est un groupe d'experts qui va travailler autour de Paul Kagame.
Ouais, donc il retrouve sa liberté de ton, il va essentiellement centrer ses activités donc sur cette réforme de l'Union africaine, mais une chose est claire, c'est qu'il a remis en question le franc CFA. Il y a quelque chose qui cloche, a-t-il dit. Aucun pays au monde ne peut avoir une politique monétaire immuable depuis 30 ans. Que reproche-t-il exactement?
Alors, je ne dirais pas qu'il remet en cause le franc CFA en tant que tel. C'est un homme réaliste, pragmatique. Alors, il dit bien sûr que le CFA est désuet. Carlos Lopez, donc je le répète, est un brillant économiste. Quand j'ai parlé avec lui donc il y a quelques jours pour un entretien, il a tenu à souligner à plusieurs reprises qu'il n'était pas un idéologue. Certes, dit-il, le franc CFA est une sorte d'héritage de l'empire colonial, mais cette zone existe depuis des décennies, et en homme réaliste, il dit qu'il faut l'améliorer. Cela doit passer par une vaste réflexion, et cette réflexion, oui, est urgente. dit-il, car il faut effectivement redonner de la vitalité, de la compétitivité aux zones CFA, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. La piste, Juan, c'est que le CFA ne soit plus rattaché à une seule monnaie, donc à l'euro, mais à un panier de devises. Alors lesquelles, là, il me dit que la réflexion doit se faire sur le long terme. Carlos Lopez estime qu'il faut garder des zones monétaires, des blocs, mais avec des ajustements monétaires au niveau national. Et puis, il faudra d'abord structurer les économies africaines. Le secteur agricole, hormis quelques pays, eh bien, est toujours extrêmement fragile. L'industrialisation quasi inexistante. Pour appliquer une politique monétaire, parce que sans une base, effectivement, sans une économie, on ne peut pas appliquer une politique monétaire. Et là, il faut, donc, Juan, créer les bonnes conditions avant toute chose.
Oui, en tout cas, il a lancé le débat. Il n'est pas le seul, hein, ces derniers mois, ces dernières années, à lancer le débat sur une remise en question du franc en CFA. Certains dénoncent un manque de souveraineté, un prolongement de la colonisation. Il y a même un ouvrage qui est sorti, je crois, la semaine dernière, ou qui sort cette semaine, de plusieurs économistes qui, le titre, déjà, on dit long, « Sortir de la servitude monétaire ».
Le sujet n'est plus tabou.
Le sujet n'est plus tabou. On aura certainement l'occasion d'en débattre avec les auditeurs. Merci beaucoup Jean-Jacques Louarn d'être venu répondre à Ben qui nous appelait de Libreville. 10h16 à Paris. On va s'intéresser maintenant à la politique française et notamment à la primaire de la gauche puisqu'on connaît depuis quelques jours les modalités pour participer à cette primaire. Anissa El-Jabri du service politique d'RFI nous rejoint à l'instant. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Et nous accueillons au standard Fabrice. Bonjour à vous Fabrice.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad, on vous écoute.
En France, le Parti Socialiste a fixé les modalités de la primaire à gauche. Pourquoi un candidat en exercice comme François Hollande doit participer aux primaires?
Alors, Anissa El-Jabri, c'est vrai que c'est la première fois dans la Ve République qu'un président sortant accepte de se remettre ainsi, de remettre en tout cas son mandat en jeu en acceptant de participer à une primaire. Précisons-le, il n'est pas encore candidat. Certes, il multiplie les déplacements, il multiplie les discours depuis quelques jours, mais il n'est pas encore officiellement candidat.
Disons qu'on a accepté le principe. Alors officiellement, il y a une réponse très simple à ça. La primaire pour désigner le candidat à la présidentielle, ben c'est simple, c'est inscrit dans les statuts du PS. C'était censé d'ailleurs être définitif depuis la toute première en 2011. Bon, en réalité, on le sait, statut du parti ou pas, François Hollande aurait pu éventuellement s'en affranchir. Certains de ses amis l'ont poussé à ça. Certains encore aujourd'hui le disent en privé. Ben c'est vrai, un chef de l'État en exercice, ça peut pas institutionnellement, enfin, ça semble incongru qu'il descende dans l'arène d'une primaire. En fait, si François Hollande y a, et comme vous le disiez, tout indique qu'il va participer à cette compétition, ben c'est contraint et forcé. Et c'est pour une raison très simple, c'est parce que c'est un président faible, très faible, comme on ne l'a jamais vu sous la Ve République. Je vous fais le rappel, le PS a perdu toutes les élections intermédiaires, la majorité s'est extrêmement rétrécie, et le président de la République, pour l'instant, est à 12 ou 13% d'intention de vote au premier tour. Alors pourquoi repasser par la case d'une primaire? Eh bien, l'idée, c'est de se dire que ça lui permettrait de se relégitimer. S'il est choisi par les sympathisants de gauche, à ce moment-là, ça sera moins compliqué pour lui d'entrer en campagne. Certains des amis de François Hollande lui ont aussi dit « Tu as des frondeurs depuis le début du quinquennat. » Eh bien, une primaire, ça permet de solder cette fameuse querelle économique, de la faire trancher par les sympathisants PS et de considérer que la bataille est derrière.
Bien sûr, ça lui permettra de défendre son bilan. Bien sûr, il pourra s'expliquer sur les décisions qu'il aura prises durant son quinquennat. Et on sait qu'il est discrédité après 5 années au pouvoir. Mais forcément, ses frondeurs vont critiquer le bilan de François Hollande. Ils vont le mettre à mal.
Alors, sur la ligne économique, les amis du président en sont convaincus. Leur position est majoritaire. De toute façon, ce débat François Hollande n'y aurait pas échappé. Il n'y a pas échappé pendant toutes ces années au Parlement. S'il n'y avait pas eu de case primaire et de possibilité de grande explication, ça voulait dire aussi peut-être prendre le risque d'un autre candidat qui là aurait définitivement ruiné ses chances de passer la barre du premier tour.
Alors, Fabrice, vous avez d'autres questions?
Oui, Juan, quelles sont ses chances face aux autres candidats?
Alors, à l'heure actuelle, Anissa El-Jabri, combien sont-ils? Ils sont 6? J'en ai compté 6, moi.
Non. Oui, environ, parce qu'on se pose toujours la question de savoir si tous vont se maintenir au moment où on entrera définitivement en compétition. D'accord. Alors, les autres candidats, Marie-Noëlle Lienemann, aile gauche du PS, François de Rugy, écologiste pro-gouvernement, par exemple, on ne sait pas si le parti radical de gauche présentera un candidat, Benoît Hamon, ancien ministre, certes, mais il n'imprime pas dans l'opinion. On a du mal à imaginer un président, certes abîmé, certes en difficulté, avoir quand même du mal à les battre dans les urnes, alors il en reste un.
Ah bah oui.
Le Camembert.
Le plus sérieux rival.
Alors, c'est vrai que les sondages, je le donne parfois en mesure de le gagner. Bon, il n'y a pas exactement d'inquiétude autour des amis de François Hollande. Alors, on verra les 22 et 29 janvier s'ils ont eu raison. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour deux raisons. La première, c'est que le combat que porte Arnaud Montebourg, c'est essentiellement sur la question de la ligne économique. Il y a d'autres sujets sur lesquels on vote pour élire un président, notamment les questions internationales. Là-dessus, un président en exercice a un avantage entre guillemets naturel. Ces responsabilités-là, il les a exercées. Les guerres, c'est lui qui les a déclenchées. La semaine dernière, ça a été assez peu souligné. Arnaud Montebourg faisait une émission politique. Tout le monde a constaté que sur ces sujets-là, il avait, disons les choses, pas vraiment préparé. Donc sur des sujets comme ça, voilà, marquer sa différence, ça sera un petit peu compliqué. Dernière petite chose, on parle beaucoup d'Arnaud Montebourg parce qu'il porte une forme de colère des électeurs de gauche. Les gens qu'il voit sur le terrain, on l'a fait, nous, le sent pas exactement déterminé.
Bon, voilà. On suivra évidemment avec vous et le reste de la rédaction des RFI cette campagne primaire de la gauche et les primaires de la droite également. Les prochains mois s'annoncent passionnants. À bientôt, Anissa El-Jabri.
À bientôt.
10h21 à Paris. Vos questions, vous nous appelez 339 693 693 70. Jack Arija, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez, et bonjour à toutes les auditeurs et auditrices et auditeurs de la radio.
Merci, Jack Arija. Vous êtes à Bamako. On avait prévu de vous prendre vendredi et j'avais terminé l'émission en vous disant ne vous inquiétez pas, on vous rappellera. Vous avez des questions sur l'accord de Paris, accord concernant la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui. L'Union européenne a ratifié l'accord de Paris contre le changement climatique signé à Paris en décembre 2015. Alors, pourquoi l'Union européenne a ratifié ce aussi rapidement alors qu'il ne fait pas consensus dans tous les pays membres?
Alors, pour être honnête, Jack Arija, je me suis posé exactement la même question que vous. Comment se fait-il que l'Union européenne ratifie cet accord alors que seuls 7 des États membres, seuls des 28 États membres l'ont ratifié? Bonjour Pierre Adan.
Bonjour.
Vous êtes expert en énergie et climat, les auditeurs des RFI évidemment vous connaissent bien. Moi j'avais compris, mais peut-être que je me trompe, que chaque État membre de l'Union européenne devait d'abord ratifier l'accord de la COP21 avant que l'Union européenne ne fasse de même. Visiblement, j'ai l'impression que la procédure n'a pas été respectée.
Alors, vous avez raison. En droit international, un traité, il y a le statut de traité, un traité doit être ratifié par les parlements nationaux. C'est la règle. Dans le cas de l'accord de Paris, il y avait une difficulté qui se présentait, qui n'était pas une difficulté, je dirais, européenne, mais américaine. L'équilibre politique aux États-Unis fait aujourd'hui qu'il n'y a pas de majorité au Congrès américain pour valider un traité tant du côté des républicains et du côté des représentants, il y a de très très fortes oppositions. Donc il a été mis dans l'accord de Paris que finalement il fallait utiliser les ratifications parlementaires, mais les pays pouvaient aussi le faire sous un autre système. Les États-Unis l'ont ratifié sous forme d'un décret présidentiel, ce qui est quand même plus faible politiquement, décret présidentiel. Alors, pour l'Europe, la situation elle est différente. Bien évidemment, l'ensemble des États membres avaient donné leur accord donc sur ce texte de Paris en décembre, et chacun a mis en route sa ratification parlementaire. Simplement, dans un certain nombre de pays, il y a des difficultés qui font que ça a traîné, notamment en Belgique, puisqu'en Belgique, il faut 4 votes. Un vote côté flamand, un vote côté wallon, un vote côté bruxellois et un vote fédéral. Et donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, on est rendu avec 7 pays qui ont ratifié, et il en manque donc encore 21, Donc Grande-Bretagne compris.
Il y a donc une procédure accélérée, et au lieu de prendre les États membres de l'Union européenne comme un ensemble régional, on a préféré prendre les pays individuellement, si je comprends bien. Donc on a un peu modifié les règles.
Non. Ça, le fait que chaque parlement national doit ratifier. Ça reste vrai.
Oui. Mmh.
Il va falloir qu'ils le fassent. Ceux qui ne l'auront pas fait au début de la conférence de Marrakech dans 4 semaines, devront continuer de le faire ultérieurement. Alors, ce qui a été décidé, c'est que pour que les choses aillent effectivement plus vite, c'est de faire voter le Parlement européen, la semaine dernière, et que le Parlement européen, il est quand même lui aussi représentatif de l'ensemble des États membres. Et donc à partir de ce moment-là, ça permettait à l'Europe de ratifier, sachant que tous les grands pays l'ont fait, donc les États-Unis, la Chine, l'Inde, et qu'il ait été désordre, si je puis dire, que l'Union européenne ne puisse pas le faire. Vous comprenez, l'accord de Paris, il est solide, il est politiquement fort, puisqu'il a été adopté par la totalité des pays de la planète, mais il fallait quand même éviter que son entrée en vigueur se traîne.
Bien sûr. Le Parlement européen, en tout cas, lui, l'a approuvé à une écrasante majorité. Pierre Adane, merci à vous. Je vous souhaite bon voyage au Maroc, puisque je sais que vous allez sur place préparer la COP22 qui débutera dans un mois. Bonne journée, Djakarija. Merci d'avoir appelé de Bamako. On va terminer avec Fernand, qui nous appelle de Douala, au Cameroun. Bonjour, Fernand.
Bonjour Juan, bonjour à tous vos auditeurs.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, on parle de plus en plus de casques blancs dans le conflit syrien. De quoi s'agit-il précisément, les casques blancs?
Ah, les casques blancs qui étaient d'ailleurs donnés favoris pour le prix Nobel de la paix qui a finalement été remis vendredi dernier au président colombien Juan Manuel Santos. Bonjour Frédéric Pichon.
Bonjour.
Chercheur spécialiste de la Syrie, on vous doit plusieurs autres ouvrages, notamment « Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé », publié aux éditions Le Rocher. Qui sont ces fameux casques blancs dont le grand public a découvert leur existence la semaine dernière?
Alors, il faut bien resituer un petit peu ce que c'est que cette organisation. On ne peut pas tout à fait parler d'une organisation purement humanitaire, je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Il y a un financement américain, britannique, européen notamment. Il y a notamment le fondateur de ces casques blancs, qui est un ancien officier des forces spéciales britanniques, qui se présente donc comme une organisation qui aide les civils. Effectivement, on les voit avec souvent une communication très très bien faite. Et ils ont, il faut le dire, contribué à sauver des centaines, voire des milliers de vies. Le problème, c'est que du point de vue des organisations humanitaires, il y a une faille, c'est que on demande à des organisations humanitaires non pas d'être neutres, car pas tout le monde le sait, dans le droit humanitaire, il faut pouvoir intervenir sur certains théâtres d'opération, et pour cela, se servir des facilités de tel ou tel groupe armé qui combat. Mmh. Le problème des casques bleus, pour moi, c'est plus
la blanc.
Question de l'impartialité. Des casques blancs, pardon.
Ouais.
C'est plutôt la question de l'impartialité. On a vu un certain nombre de combattants qui mettaient un casque blanc par la suite, si vous voulez. Et la frontière entre combattants et notamment des groupes proches d'Al-Qaïda et ces casques blancs est pas toujours claire, je pense.
C'est d'ailleurs sur ce point que le régime syrien discrédite les casques blancs en disant qu'ils sont proches des mouvances affiliées à Al-Qaïda.
Oui, alors moi c'est pas du point de vue du régime syrien que je me place, c'est du point de vue encore une fois du droit humanitaire. Ça, vous demandez à n'importe quel humanitaire, la question c'est pas la neutralité, c'est l'impartialité. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'impartialité. Moi, si vous voulez, il y a une photo assez célèbre où on voit un combattant du front Nosra perpétrer une exécution capitale sur un jeune homme, et dans la minute qui suit, on a des casques blancs qui arrivent avec un brancard pour évacuer le cadavre. Ça, aucune organisation humanitaire n'accepterait de se plier à cette mascarade.
Oui, en tout cas, les casques blancs, eux, affirment avoir sauvé depuis le début de la crise et du conflit 62 000 Syriens. On précise que 145 d'entre eux sont morts également depuis la création des casques blancs il y a maintenant 3 ans. Frédéric Pichon, merci d'avoir été avec nous, spécialiste de la Syrie. à suivre le journal et on revient tout de suite après. On va parler de la campagne électorale américaine après le deuxième duel télévisé, duel virulent qui s'est déroulé cette nuit.